Bonsoir. Nommés depuis plus d'un mois, les nouveaux mandataires de la GECAMINE et de la SNCC ne sont toujours pas entrés en fonction et pour cause. La ministre du portefeuille qui doit exécuter les ordonnances du chef de l'État ne l'a toujours pas fait. Quelle lecture faire de cette situation? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous accueillons Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du FCC. Ferdinand Kambéré, bonsoir.
Oui, bonsoir Benoît.
Peter Kazadi, bonsoir.
Bonsoir.
Député provincial de Kinshasa, cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH. Et puis Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Le président Félix Tshisekedi a nommé par ordonnance des nouveaux dirigeants à la SNCC et à la GECAMINE depuis juin dernier, mais ceux-ci n'ont pas encore pris leurs fonctions dans ces entreprises publiques et pour cause, la ministre du portefeuille qui doit exécuter les ordonnances du chef de l'État ne l'a toujours pas fait. Les raisons dans cette tentative d'explication avec Kéline Kouté.
Selon certaines indiscrétions, cette dernière aurait reçu le mot d'ordre des caciques du Front commun pour le Congo de saboter les ordonnances rendues publiques par le président de la République portant nomination des mandataires à la SNCC et GECAMINE. Il faut dire que la plateforme dirigée par Joseph Kabila n'a pas du tout apprécié ces nominations, d'autant plus que son favori, Albert Yuma, relégué au poste de PCA de la GECAMINE, ne jouera plus le premier rôle, ajoute une source proche de CASH. Kyungu et Sama Lukonde sont membres de la Mouka et proches de Moïse Katumbi et Fabien Moutombe est au cadre de l'UDPS. L'opinion se rappellera du tollé créé par la motion insinuelle à l'Assemblée nationale sur ses ordonnances qui a occasionné des manifestations à travers le pays, manifestations qui ont failli mettre fin à la coalition FCC. CASH, au cours d'une conférence de presse mardi 2 juillet à Bounia, où il séjournait, le président de la République s'est exprimé sur ses ordonnances nommant les nouveaux mandataires à la GECAMINE et à la SNCC. Le chef de l'État reconnaît une réticence dans le chef de la ministre du portefeuille pour l'exécution de ces ordonnances, mais affirme qu'elles seront appliquées.
Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du FCC. Votre analyse sur cette situation, le président de la République prend une ordonnance et la ministre du portefeuille, votre collègue du PPRD et au FCC, refuse de l'exécuter. Est-ce que c'est normal?
Oui, dans un état de droit, c'est normal. Dès lors que je venais de suivre l'analyse de votre concert qui vient d'introduire l'émission, qui revient sur les tollés créés au niveau de l'Assemblée nationale. Cela a été suivi par les différentes manifestations des différentes bases des partis politiques. Tout ceci a planté un décor tel que peut-être pour cette pauvre dame ministre du portefeuille, hein, dès lors qu'elle se trouverait dans l'embarras. C'est surtout parce que les gens font souvent la confusion. Ce qui a posé le problème, ce n'est pas la signature du président de la République parce qu'il était dans ses compétences. Mais c'est le contre-sein. Le contre-sein, c'est le contre-sein qui a fait trop de bruit parce qu'alors qu'il y avait déjà un premier ministre nommé...
Le contre-sein aurait fait du bruit au sein de parmi les élus ou au sein de la population.
Le contre-sein constitutionnellement a ce rôle de rendre le président de la République, alors que c'est son acte, parce que c'est l'ordonnance présidentielle, irresponsable vis-à-vis du Parlement, parce que le Parlement ne peut pas l'interpeller. Mais c'est lui qui contresigne l'acte du président de la République, c'est lui qui doit être interpellé. Et malheureusement, le flou qu'il y a eu sur la signature, sur le contre-sein, est-ce le dire câble du président de la République? Est-ce le premier ministre démissionnaire qui, lui, peut être interpellé au niveau du Parlement pour répondre de tel ou tel acte?
Alors,
et il y a un aspect Cambéré, que je voudrais terminer par ça.
Oui, oui, je voulais vous relancer puisque vous allez garder la parole. Ferdinand Cambéré, vous êtes ancien ministre et vous êtes quand même secrétaire permanent adjoint d'un grand parti au sein de la coalition FCC-CACH au jour d'aujourd'hui. Le document reconnu officiellement, c'est lequel? C'est celui contre-signé par qui? Parce que nous avons vu et nous avons écouté les commentaires des uns et des autres sur l'existence de deux documents, voire trois documents. Alors, n'ayant pas reçu un document officiel authentifié comme étant celui que le président aurait signé et officiellement présenté, aujourd'hui, quel est le document sur lequel vous parlez et que vous critiquez?
Voilà,
parce que nous avons un proche collaborateur du parti du président de la République qui nous donnera aussi la version pour qu'on comprenne de quel document on parle.
C'est ça le flou. C'est ça le flou qui demeure. Et que donc, dans l'opinion, on n'a pas si exactement quel est l'acte qui doit être exécuté. On s'est même posé des questions si vraiment l'acte, parce que nous sommes dans la coalition quand même, FCC et CACH, et que dès lors qu'il y avait un Premier ministre nommé régulièrement par le Président de la République...
Quel est le document qui a été transmis au FCC puisque vous êtes dans une coalition?
Je ne sais pas, c'est peut-être mon frère l'honorable Kazadi qui va
le dire. Tout à l'heure il prendra la parole, il pourra peut-être nous en dire un mot.
Mais vous va le dire et peut-être que nous aurons encore plus à analyser, parce que ce que nous faisons ne sont que des analyses. Lorsque nous tous, nous cherchons la promotion de l'état du droit dans notre pays.
Vous pensez que la ministre, qui doit être dans les secrets des dieux, elle est dans le gouvernement de la République, vous pensez qu'elle ne connaît pas c'est quoi le vrai document sur lequel elle doit s'appuyer en principe?
Je ne sais même pas, je ne l'ai pas consulté. Donc je suis en train de faire l'analyse en tant qu'un homme libre, un citoyen simple qui a suivi les débats au Parlement, qui a suivi les débats dans la rue, les altercations entre les membres des partis politiques. Et
alors,
qui est étonné qu'aujourd'hui ces débats renaissent alors que tout le monde a dit en fait que l'urgence était que le gouvernement sorte. Personne ne peut dénier le pouvoir au président de la République de nommer les mandataires, c'est son pouvoir. Mais le problème qui se pose, c'est que est-ce que l'acte a suivi le parcours avant que ça arrive à sa signature?
Alors, aujourd'hui, nous devons...
Et que ça a quand même des conséquences.
Nous voulons savoir aujourd'hui pourquoi ces mandataires ne sont pas en fonction et éventuellement, est-ce que la ministre a refusé de son gré de désobéir au président de la République? C'est pour ça qu'on est là, on est là pour être éclairé.
Oui, SRFI, je ne sais pas le dire. Vous, celle qui a introduit l'émission, votre émission a dit que pour les chefs de l'État, lorsqu'il était à Bounia, il a parlé des réticences. Qu'est-ce qui justifie ces réticences? Vous êtes des journalistes, vous pouvez l'approcher. Mais, comme j'ai dit, à suivant les débats, les uns et les autres, c'est du côté du contre-sec que tout le monde a dit que ça pouvait être régularisé, parce que lorsque c'est un acte de disposition, alors qu'il y a un Premier ministre, ce n'est ni le contre-sec des Premiers ministres qui ne peut plus répondre de ses parlements, encore moins ce qu'on demande à la ministre qui est aussi démissionnaire. Elle ne peut pas répondre de ses parlements.
On a écouté beaucoup de déclarations du FCC autour de ces ordonnances et beaucoup de vos collègues du FCC ont indiqué qu'ils n'étaient pas contents et qu'ils pourraient peser de leur poids pour que la ministre ne les exécute pas. Vous pensez que la ministre a obéi à ce mot d'ordre, par exemple,
du FCC? Oui, j'ai entendu ça à l'introduction, mais je crois que tout ça est simplement des supputations, des accusations gratuites. On parla des caciques du FCC qui ont donné un mot d'ordre. Peut-être qu'on ne connaît pas Madame la ministre. Elle a été ministre de la Justice. Je crois qu'elle doit, elle aussi, avant de poser un acte, s'interroger si l'acte qu'elle va poser est régulier. Parce que c'est elle qui a répondu. Dès lors qu'elle pose un acte, c'est elle qui a répondu. Elle fut ministre de la Justice.
Alors,
et que donc, s'il y a ces réticences-là, je ne sais pas à quel niveau c'est à elle de lui poser la question.
Alors, étant du PPRD et occupant des hautes fonctions au sein du principal parti du FCC, vous devez en principe être au courant de la vraie position du FCC. En un mot, vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas une décision, il n'y a pas un mot d'ordre donné à la ministre pour désobéir au président et pour ne pas appliquer.
Non, il n'y a pas de mot d'ordre et je ne vois pas pourquoi on le ferait. Ce qu'on attend et c'est sur quoi on est en train vraiment de travailler, ce que le gouvernement sorte est le plus rapidement possible, parce que s'il y a eu un acte et qu'il faut régulariser cet acte, je crois qu'il sera toujours du pouvoir du président et c'est lui qui va venir de faire ça. Il n'y a pas de fait sous la case. Merci. par rapport à Gécamines, alors que c'est encore Yuba qui est revenu là-bas. Je crois qu'on va s'habituer. À un moment donné, on a été habitué à un pouvoir totalitaire de l'époque de Mobutu. Quand il prend un acte, il n'y aura ni commentaire, ni analyse, ni quoi que ce soit. On voit tout le temps Trump prendre des actes et c'est un juge soit qui bloque l'exécution, c'est soit le Parlement, c'est soit ceci. Rien que à l'examen, pour examiner la régularité de l'acte.
Merci.
Sans nécessairement contester. Mais vous voyez que chaque fois, il revient. Si on a reproché, par exemple, la procédure à tel aspect et à tel autre, on reprend la procédure et on pose un acte et puis ça passe. C'est ça un état de droit.
Merci Ferdinand Cambira. On reviendra à vous pour en savoir davantage. Peter Kazadi, député provincial de Kinshasa, cadre de l'UDPS, parti membre de la plateforme CASH, dont est issu le président de la République. Vous êtes de la famille politique du président Tshisekedi, je le disais tantôt. Le président de la République a-t-il plié devant une ministre rebelle ou pas?
Non, le président de la République ne peut pas plier devant un citoyen qui s'érige je ne vais pas utiliser un mot dur, mais quelqu'un qui manque du respect.
Voilà, hein, la question. Est-ce que selon vous, selon l'UDPS, selon le CASH, la ministre a refusé d'exécuter ses ordonnances?
Elle a refusé et son ami ici, sa famille politique, venait de les confirmer.
Ah non, mais vous savez... Je venais de lui reposer la question avant de vous la donner.
Le problème, c'est que vous avez invité quelqu'un qui ne maîtrise pas les dossiers. Vous voyez, il tâtonne, tantôt il fait des affirmations et puis il revient. Je pense que ça va être difficile.
Éclairez-nous dans la suite. Éclairez-nous.
Le président de la République a pris des actes.
Okay.
Il s'est posé des questions que je viens d'entendre ici. Est-ce que pouvait-il prendre ces ordonnances pendant que il y a un premier ministre qui a été nommé et l'autre qui est démissionnaire? C'est la première question. La deuxième, est-ce que ces actes ont été contresignés par le premier ministre ou par son directeur de cabinet? À cette dernière question, je renvoie mon co-débatteur à l'article 3, alinéa 2 du décret portant réglementation des soins officiels. Là-dedans, il est réglé la question des certifications des actes des responsables. Le directeur de cabinet du président de la République n'a pas les pouvoirs de contreseing, il a les pouvoirs de certification. Et je parle à un juriste qui est censé connaître ça. Et qui a signé, qui a contresigné avec le président de la République? J'ai dit bien que c'est Bruno Tshibala. Nous avons été poussés à publier les documents avec la signature de Bruno Tshibala qui est en vie. Et ce dernier n'a jamais dit en public qu'il n'avait pas contresigné.
Donc vous dites ici, avant de poursuivre, vous dites ici qu'il n'a jamais existé deux documents.
Non,
il a beaucoup dans
normalement, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est fait? Et même, nous sommes avocats, mon co-débatteur est avocat aussi, vous l'êtes, j'espère. Lorsque nous obtenons, par exemple, les ordonnances des chefs de juridiction, on ne nous donne pas là où le chef de la juridiction a signé. L'ordonnance signée par le chef de la juridiction, je prends l'exemple que nous vivons, moi et lui, c'est les greffiers divisionnaires ou les greffiers principaux en ce qui concerne la cour d'appel qui nous livrent un document certifié conforme à celui signé par les chefs de la juridiction. Il en est de même dans les cabinets du président de la République. J'ai toujours rencontré des Congolais qui se demandent à quoi ressemble la signature de Joseph Kabila. Et pourtant, il n'a cessé de signer des ordonnances. et sur aucune de ces ordonnances publiées, vous ne trouverez sa signature. C'est toujours contresigné par les directeurs de cabinet et c'est le cas d'espèce. Nous voyons qu'il y a une mauvaise foi.
Contresigné.
J'ai dit, certifié, c'est ce que je voulais dire. Et la confusion est partie aussi de la communication du porte-parole du président lorsqu'il dit contresigné Vital Kamerhe. Mais pour des intellectuels que nous sommes et surtout avocats, juristes de surcroît, on ne peut pas se fier puisque quelqu'un, comme je viens de le faire ici, un lapsus, vous dites non, comme il a dit contresigné, c'est que le directeur de cabinet a signé. Ça, c'est irrationnel et c'est illogique.
Mmh. Ah, ça, c'était juste l'exemple. Hein.
La question maintenant, la deuxième question qui se pose, est-ce que Bruno Tshibala pouvait signer, contresigner ses ordonnances du moment où il est démissionnaire? Oui. L'article 8 de l'ordonnance loi portant et de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement dit que le premier ministre, bien que nommé, n'entre en fonction qu'après l'investiture.
Donc, ok.
Le premier ministre Ilou Kamba est bien nommé, mais il n'est pas encore entré en fonction par le simple fait qu'il n'a pas été investi. Et par conséquent,
Peter Kaza dit ça, c'est
Bruno Tshibala qui est en place,
oui.
Il continue à assurer les affaires courantes.
Ok. Là c'est
on dit,
historique.
On dit, et s'il vous plaît,
oui, parce
c'est
que ce
très
n'est pas
important.
Ça, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui.
Non.
Ok, allez-y.
Il a commencé par là et je vais éclairer une fois pour toutes l'opinion.
Mais je puisque vous rappelle dit, que ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui.
Non, c'est important.
Mm-hmm.
Alors, Bruno Tshibala, expédiant les affaires courantes, contresigne l'ordonnance. Une ministre, elle aussi, expédiant les affaires courantes, refuse d'appliquer la décision de son chef. On dit que puisqu'ils sont irresponsables devant le Parlement, non, ce n'est pas que puisqu'on est démissionnaire, qu'on cesse d'être responsable de ces actes. Si donc les démissionnaires qui expédient les affaires courantes posent des actes qui violent la loi pénale, ils sont responsables.
Alors, vous êtes juriste, Peter Kazadi, que prévoit la loi pour une ministre qui refuse d'exécuter les décisions du chef de l'État?
Normalement, c'est la sanction.
Laquelle?
C'est une incivique.
Oui.
Qui a refusé d'obtempérer.
C'est une révocation, non?
Absolument.
Voilà. Si c'est une révocation, pourquoi le président de la République
maintenant,
ne,
nous nous disons
ne la révoque
ceci,
pas?
Puisque vous voyez, comme en introduction, Kelly l'a dit, il s'agit d'un complot monté par la famille politique de cette dame, l'FCC. Ils ont fait des réunions bien avant. Ils ont monté, ils ont boutiqué leur plan, avec les objectifs de créer un désordre au sommet de l'État. Nous ayant compris cela, on ne peut pas tirer sur un cadavre. Cette dame n'est qu'un cadavre. Elle n'est plus ministre, elle ne se laissera peut-être plus...
Mais est-ce que,
alors,
est-ce
ça que pour, ne sert à rien
est-ce
pour
que
nous.
Pour la moralité de l'État, est-ce que pour justement empêcher de telles velléités dans l'avenir, le président de la République, même de manière symbolique, ne pouvait pas justement la révoquer
Mais pour c'est là que je vous dis, c'est là que j'ai dit que ça ne sert à rien de tirer sur un cadavre qui est déjà mort. La dame est déjà morte. Et au moment opportun,
je précise
on
que
va
c'est
l'enterrer
juste une figure de style,
et
hein,
on va au moment opportun, mais il n'est plus ministre.
Merci.
Donc, pourquoi alors lui donner autant d'importance pour qu'on dise que voilà, on a créé un incident au sommet, on la laisse,
merci,
mais les ordonnances du chef de l'État seront bel et bien exécutées.
Merci, Peter Kazadi, nous reviendrons aussi à vous. Rappelons juste que la ministre, Wivine Mumba, est encore vivante. C'est juste un style de langage que que Peter Kazadi a utilisé tout à l'heure pour dire que justement, c'est pas sur elle qu'il faut s'acharner. Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, chercheur au centre d'études politiques de cette même université, votre analyse de cette situation, est-on ou pas dans une situation d'insubordination grave, voire même d'outrage au président de la République?
Professeur Félicien. Je voudrais d'abord commencer par dire.
Allez-y.
Je voudrais commencer par dire que les ordonnances du chef de l'État ne sont pas appliquées pour des causes qui sont plus politiques que de conformité au droit.
C'est ça.
En fait, le FCC, qui est une macro-plateforme politique, a difficile à gérer les ambitions politiques de ses membres, compte tenu de leur nombre et compte tenu du fait que il y a un gâteau qui s'amincit devant une pléiade d'acteurs politiques. Et donc, apparemment, le FCC comptait évidemment sur les sociétés du portefeuille de l'État pour répondre aux nombreuses revendications de positionnement et ne voudrait pas laisser le chef de l'État cette initiative seule de nommer, n'est-ce pas, au niveau de sociétés de portefeuille de l'État. Et déjà, vous vous rappellerez que bien avant la société Gécamines SMTC, le FCC n'était pas déjà d'accord avec les nominations au sein de la SONAS. Et donc, le FCC a tenu à mettre fin à cette série de nominations qu'il trouvait unilatérale, parce que pour le FCC, il a fallu qu'il soit consulté comme allié au préalable avant toute initiative de nomination. Et donc, vous avez là, véritablement, l'existence si vous voulez, un manque de cohésion entre le FCC et les CASH, alors que les deux parties veulent s'engager dans une entreprise de coalition.
Professeur, terminez votre pensée.
Oui, de l'autre côté, vous avez en fait l'existence d'un centre de décision formelle par l'État de la Nation et qui est à côté d'un autre centre de décision qui est informel et qui fonctionne de manière sous-marine et sans pour autant évidemment être visible. Et parce que vous posez la question de savoir s'il y a eu une subordination, je voudrais dire d'abord ici qu'en fait, quel est le sens du contre-saint ? Le contre-saint, quand il est apposé par le Premier ministre, il exprime l'idée de la collaboration du gouvernement à l'acte, mais aussi il exprime l'engagement du gouvernement à faire appliquer le texte. Il y a donc là l'idée de l'endossement de la responsabilité individuelle et solidaire et collective de l'ordonnance par l'ensemble du gouvernement, étant donné que c'est le Premier ministre qui a posé sa signature et donc qui a engagé l'ensemble de l'équipe. Alors, pourquoi la ministre du portefeuille n'a pas été sanctionnée pour insubordination? Je vois visiblement que ces ordonnances semblent avoir beaucoup secoué la coalition et, pour moi, le président de la République semble avoir choisi la voie de l'apaisement et n'a pas voulu prendre des sanctions tout de suite à l'endroit de la ministre. Et ça, c'était une manière d'apaiser ses alliés de FCC.
Alors,
de mon point de vue, il s'agit là.
Alors, selon vous, si vous avez quelques indiscrétions, on aimerait que vous nous les partagiez ou si vous avez un peu plus d'éclairage. Alors, on se retrouve dans une situation où il y a une ordonnance des mandataires qui doivent en principe entrer en fonction et travailler pour l'État. Ils ne le peuvent pas. Et les entreprises qui doivent fonctionner normalement avec cette non-application, nous ne savons pas très bien comment fonctionnent à l'interne ces entreprises en ce moment. Comment pensez-vous que ces entreprises fonctionnent en ce moment dans cette situation de flou?
J'ose imaginer que le président de la République, le Premier ministre ainsi que le gouvernement ont probablement trouvé qu'il y avait une urgence étant donné l'importance de ces deux entreprises, de procéder à des nominations. Mais est-ce qu'ils ont suivi la procédure? Moi, je ne sais pas. Tout ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a une ordonnance qui a été signée, mais elle a été signée par les deux parties qui ont été, si vous voulez, en fait, qui devaient être responsables de cet acte par leur signature. Il s'agit du président de la République et du Premier ministre.
Félicien
il y a une autre. Oui.
Félicien Kabamba et les nouveaux entrants qui sont au courant de leur nomination, comment pensez-vous qu'ils se comportent en ce moment?
Bon, je crois qu'ils doivent attendre. Ils doivent attendre que se dissipe ce malentendu entre le CASH et le FCC avant, bien entendu, qu'ils puissent entrer en fonction. Mais il y a une question qui est posée sur laquelle vous allez permettre que je dise un mot.
Allez-y.
En fait, on semble dire, est-ce qu'un Premier ministre démissionnaire peut-il contresigner un acte de nomination du chef de l'État? En fait, cette discussion, elle est vieille. Elle a, si vous suivez très bien les écrits, la littérature, vous allez trouver qu'il y a un très grand nombre de littérature qui a été consacrée à ça, aussi bien en Belgique que en Italie, eh bien, si vous voyez très bien en Belgique, à partir des années 2010, eh bien, on a eu des gouvernements qui se sont étendus beaucoup sous la durée. Eh bien, à mesure que le gouvernement démissionnait dure, eh bien, toute la question qu'on se pose, c'est que jusqu'où s'étendront ces compétences. Et quand vous regardez en Belgique en 2010, le gouvernement démissionnaire belge avait assuré la présidence tournante de l'Union européenne en prenant des décisions importantes qui engageaient non seulement la Belgique, mais aussi l'Union européenne. Le même gouvernement, il a fini par procéder à des nominations, donc à des hautes nominations comme celle du gouverneur de la Banque nationale belge en 2011. Le même gouvernement démissionnaire a élaboré un projet de budget fédéral en 2011. Il a même aussi élaboré un projet de budget pluriannuel pour l'Europe. Et pire encore, il a engagé la Belgique dans la guerre du Midi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en fait, au fur et à mesure que on est dans une crise institutionnelle, on n'a pas un gouvernement responsable, la question qui peut se poser et que l'on pose toujours, c'est que, eh bien, jusqu'où peuvent s'étendre les compétences d'un gouvernement démissionnaire? Faut-il laisser le pays, évidemment, au bord du précipice, car, comme vous le savez, le gouvernement démissionnaire doit prendre toutes les mesures indispensables à la continuité du service public de l'État, mais aussi les mesures urgentes qu'il doit prendre ne doivent souffrir d'aucun retard au sein de préjudice irréparable.
Merci. Merci Félicien Kabamba. Le débat continue. Hein. Nous reviendrons sûrement sur justement ces éclairages avant de conclure notre émission. Le temps de redonner la parole à Ferdinand Kambere qui en a été privé depuis un bon moment pour raison d'équilibre de temps de parole. Mais avant que Ferdinand Kambere ne reprenne sa parole, nous allons écouter ensemble cette réflexion de Kinshasa, de Glody, qui nous appelle depuis Kinshasa.
Glody Bolakofo depuis Kinshasa. À mon avis, cette situation ne fait que renforcer la thèse selon laquelle l'alliance FCC-CACH n'est pas sincère. Il s'agit pour moi d'une alliance contre nature. Les FCC et ses membres ne sont pas prêts à faciliter la tâche au nouveau président de la République en lui mettant des embûches pour qu'il ne puisse pas appliquer sa vision pour le décollage du pays.
Ferdinand Kambere, réaction déjà à cet auditeur, mais aussi à l'ensemble de ce qui a été dit par vos co-débatteurs.
Oui, je remercie l'auditeur par son analyse, mais je crois qu'il est peut-être allé vite à besogne. Hein, on doit toujours se mettre en tête que les régimes actuels, c'est le régime où le chef de l'État est élu, mais la majorité au Parlement appartient à une autre famille politique, et que les deux familles politiques se mettent ensemble pour travailler pour l'intérêt général. C'est cela. Et que donc, j'ai bien suivi les professeurs, il est donc lui-même dans l'embarras, il est donc, et c'est ça qui avait été appelé, le souhait de tout le monde, c'était que le gouvernement très vite soit mis à place. Et que s'il y a, il a dit que l'ordonnance sera exécutée, personne n'a jamais dit le contraire. Mais ce qui est un peu, qui met mal à l'aise l'autre partenaire, parce qu'on est quand même partenaire, lorsqu'on n'a pas gagné celle, la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, on a des alliés, on a des partenaires, le professeur vient de le dire, et que dès lors, quand on veut prendre des décisions importantes, on ne les surprend pas dans les dos. On l'associe à la décision. Et l'exécution à ce moment-là, parce que c'est maintenant l'autre famille qui a la majorité au Parlement qui devra endosser toute la responsabilité. Lorsque la décision vient, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de réticence à ce moment-là. Mais si il y a eu comme une surprise où on surprend l'autre, on fait comme s'il faut lui imposer, j'attends les termes qui sortent de la bouche de mon co-débatteur, honorable Kazadi, j'ai peur. Ce ministre qui est morte, c'est une cadavre, c'est grave ça.
J'ai récupéré tout à l'heure qu'il ne s'agisse pas d'une mort physique.
Et pourquoi c'est à ces cadavres-là qu'on demande quand même d'exécuter Non, je crois qu'on ne fait pas ça à un partenaire. Nous tous, nous sommes là, j'attends qu'il y ait un complot, que les FCC veulent monter au sommet de l'État pour créer un désordre.
Alors, vous dites qu'il n'y a pas gourmandise auprès du FCC.
Mais de quelle gourmandise?
Qui a la grande majorité de la direction, des services de l'État, des institutions nationales et provinciales, et qui va bientôt avoir probablement le Sénat. Est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre dans cette coalition?
Vraiment, on voit la mauvaise foi. dans l'ancien chef de l'État.
Non, non,
Joseph Kabila, parce que je viens de voir ici qu'on comprend que les centres de décision, il y a un centre informel au niveau du Palais de la Nation, et il y a un centre de décision informel. Mais mon Dieu, qu'on arrête. Il ne faut pas que, ici, les gens commencent à remettre en cause le pouvoir constitutionnel qu'a le président de la République. Lorsqu'un acte, il est posé et qu'il sera exécuté, naturellement et constitutionnellement par les deux forces, parce qu'ils sont en coalition, ne fût-ce que consulter l'autre, ne fût-ce que l'associer à la décision. Alors, parce que l'exécution viendra d'elle.
D'accord,
faut pas la surprendre.
Ferdinand Kambéré, le FCC a probablement été, en vous écoutant, frustré par cette prise de décision du président de la République, mais entre-temps, ça fait déjà presque deux mois, il s'est passé un temps, mais que savez-vous de comment fonctionne le FCC, la SNCC et la GECAMINE maintenant qu'il y a un peu... ce malaise des animateurs.
Frustré, je ne pense même pas. Simplement, comme je dis, lorsqu'il y a un problème de régularité, vous savez, le professeur vient de le dire, qu'il n'y a pas que les aspects juridiques qui doivent être suivis, c'est les aspects politiques. Mais il a oublié un fait, sur toujours les aspects juridiques. C'est quand même des entreprises de l'État. Lorsqu'on prend un acte, à supposer que ces contre-saints posent un acte, certes, il vient de donner beaucoup de jurisprudence en Belgique, en Italie, mais si ces mandataires sont là tels quels, il a reconnu qu'au niveau de la communication, c'est le porte-parole de la présidence qui lui-même a d'abord fatigué tout le monde. En parlant du contre-saint du directeur de cabinet, tout le monde a tiqué, tout le monde a eu la chair de poule. Et que donc, un tel acte, des nominations, des gens qui vont gérer une grande entreprise comme la GECAMINE et autres, il se fait que la GECAMINE a besoin, par exemple, de recouvrer une telle créance au niveau des cours et tribunaux. Il est avocat comme moi, il sait. Mais celui-là contre qui on recouvre, dès qu'il sait qu'il y a une certaine irrégularité dans la procédure de prise d'acte, peut...
Vous
avez parlé de la communication, du porte-parole, de la présidence.
Il vous reste 15 secondes, Ferdinand Kambéré.
Je disais, c'est un acte qui peut être attaqué par celui-là pour, par exemple, démontrer que ceux-là n'ont pas qualité. Et si l'entreprise perd d'énormes intérêts, tout simplement parce qu'on ne veut pas régulariser un acte, personne ne conteste le pouvoir qu'il a. Mais quand il y a un souci de régularisation d'un acte.
Comme c'est le cas pour le moment.
Dans un état de droit, ce qu'on doit faire, c'est de ne pas foncer, mais de régulariser et de faire tous les autres aspects, rencontrer tous les autres aspects
notamment politiques. Notamment consulter le FCC.
Oui, parce qu'on est alliés quand même.
D'accord.
Dans ça, et on va co-gérer d'une manière ou d'une autre.
Merci, c'est compris votre idée. Vous aurez encore une dernière fois la parole pour conclure dans cette émission. Le temps de redonner la parole à Peter Kazadi, qui la reprenait déjà, alors que ce n'était pas encore son tour de parole. Mais avant de la céder à Peter Kazadi, écoutons ce commentaire de Serge aussi de Kinshasa.
Serge Nsafou depuis la commune de Barumbu à Kinshasa. Le fait pour madame la ministre du portefeuille de ne pas exécuter ses ordonnances présidentielles portant nomination des mandataires dans ces deux entreprises prouve que le président Tshisekedi n'exerce pas réellement les fonctions dévolues au président de la République, car l'exécution d'une ordonnance présidentielle ne peut être annulée que par une autre ordonnance présidentielle. Cette inexécution jusqu'à ce jour montre une certaine négligence dans le chef du garant du bon fonctionnement des institutions en RDC, dans la mesure où ce ministre n'est pas inquiété ni par une sanction administrative, ni encore par une sanction judiciaire.
Peter Kazadi, cet auditeur nous rejoint un peu, pour besoin de moralisation du gouvernement et des prochains animateurs. Il estime que, même symboliquement, il fallait une sanction.
Oui, je vous ai dit que ça ne sert à rien de tirer sur un cadavre. Je ne veux pas dire que madame est morte. Tout simplement, et c'est une dame qui est à la porte.
Qui n'a pas le pouvoir. Vous voulez dire qu'elle n'a pas le pouvoir.
Qui n'a pas de pouvoir.
Et elle a reçu des instructions du FCC qu'elle
voilà.
exécute.
Et ici, on veut dépasser aux aveux. Si donc la décision du président de la République n'est pas exécuté, c'est parce qu'au FCC, on estime qu'il ne les a pas consultés.
Bon, alors, entre-temps, les deux entreprises sont en train de vivre une situation de flou, ça favorise une insécurité.
Il a parlé,
comment on va résoudre ce problème?
Je vais y arriver. Il a parlé de régulariser l'acte, mais j'ai posé la question, quel est l'acte qu'il faut régulariser, puisque je viens de démontrer que on a pris l'acte dans la forme légale. Et ici, l'exécution n'est pas politique. L'exécution est administrative. Vous comprenez? Mais pour des motivations politiques, cette dame s'érige en obstacle quant à l'application de la décision du président de la République. Donc, pour nous, il n'y a aucune confusion. Il y a des mandataires qui sont nommés, mais qu'on empêche tout simplement d'exercer leurs activités pour des raisons politiques. Si donc nous nous faisons attention, demain nous allons assister à une république où nous avons des décideurs. Il y a un chef de l'État élu au suffrage universel qui dicte et un autre camp politique au nom de leur majorité qui ne coïncide pas avec la majorité populaire, ils vont faire obstacle. Et ici, la population doit comprendre que nous sommes maintenant dans une situation catastrophique où nous allons nécessairement connaître des blocages puisque les amis en face sont tellement de mauvaise foi, ils ne veulent pas que les choses puissent changer.
Alors, Peter Kassadi, ça, on n'acceptera pas. Je rappelle que vous êtes du parti qui est dont était issu le président de la République. Le président de la République a 1000 fois préséance sur tous les ministres du gouvernement et c'est qui a pris cette décision. On a l'impression que la coalition FCC-CACH ne dialogue pas en interne. Dans les médias, on a visiblement l'impression que vous ne vous entendez pas du tout. Comment, pour ce cas-ci, ça sera résolu, alors vu qu'apparemment vous ne dialoguez pas?
Il ne faut pas déplacer un problème institutionnel sur un champ politique. Le président de la République, comme le professeur venait de l'expliquer en français facile, s'est concerté avec le premier ministre, qui du reste est membre du FCC. Il a contresigné les documents du président, les ordonnances du président. La question maintenant n'est plus politique, la question est plutôt administrative. Puisque Bruno Tshibala était membre notoire de CACH, en contresignant, il a collaboré et il a endossé la responsabilité. Voilà que sa subalterne refuse d'exécuter, et ici je viens d'apprendre que l'ordre est venu du CACH. Ça c'est insupportable dans une république. Qu'est-ce qui fait croire que même lorsque nous allons aller dans cette coalition avec le premier ministre Ilou Kamba, et que lui aura contresigné les actes du président de la République, nous n'allons pas connaître la même situation.
Merci.
Donc il s'agit d'une hypocrisie, on veut nous entraîner dans un trou, se servant, croyant se servir de la majorité populaire incarnée par Félix Tshisekedi, pour réaliser toujours des projets qui ont conduit ces pays dans l'abîme.
Merci.
Et ça, j'ai dit qu'on n'acceptera pas.
Merci Peter Kassadi. Professeur Félicien Kabamba, vous allez prendre la parole, mais avant, nous écoutons cette réflexion de Grâce de Kikwit.
Grâce Kalaki, province de Pilouville de Kikwit. Si M. Félix Tshisekedi rencontre ces humiliations, il est lui-même auteur, car le FCC est rejeté par les Congolais. Il se sert de M. Félix pour continuer leur comédie. Les membres du FCC étant plus fidèles à leur autorité morale qu'au président Félix, et surtout certaines figures dans ces ordonnances viennent le FCC, je crains que ces ordonnances restent lettres mortes.
Félicien Kabamba, quelle est votre analyse?
Je crois que l'UDPS et le président Félix ont fait le choix. On fait le choix, un choix difficile, de composer avec le FCC. Bon, c'est vrai que vous dites que le FCC a été rejeté par le peuple, évidemment. Là, vous avez les résultats des élections qui vous donnent des situations différentes. Les élections présidentielles, oui, le FCC est rejeté. Et si on tient compte des résultats au niveau provincial et au niveau législatif, eh bien, vous avez là une situation totalement inverse. Et donc là, cette confiance dont vous parlez, il faudra évidemment qu'elle ait un soubassement matériel acceptable. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que, en fait, la décision, parce que j'ai dit qu'il y avait, il semble avoir un centre d'impulsion et de décision qui, en fait, si je disais cela, c'est
Parce qu'en fait, on peut poser la question de savoir, mais qui a décidé que ces ordonnances ne soient pas appliquées? Qui a pris la décision? Est-ce que c'est au niveau formel du pouvoir de décision, ou alors il y a un autre niveau de décision qui peut narguer, si vous voulez, le niveau formel du pouvoir politique? C'est là que se pose le véritable problème. Est-ce qu'il y a-t-il un autre niveau de pouvoir qui soit supérieur au niveau, donc au pouvoir officiel de l'État? Là se pose toute la question de la fonctionnalité du pouvoir politique en République démocratique du Congo. Comment un chef de l'État peut prendre une décision et cette décision est mise en échec par l'autre parti qui n'est pas au pouvoir? Et donc, vous avez là véritablement toutes les questions qu'on peut se poser sur la base structurelle véritable du pouvoir politique en RDC.
Prof. Félicien Kabamba, tout à l'heure, on sent dans le studio des positions contradictoires des membres de ce qui doit être en principe une coalition, c'est-à-dire une plus grande harmonie. Alors, quand vous écoutez tout ça, on ne semble pas sorti de l'auberge. Selon vous, quel climat va continuer à exister dans cette coalition FCC-CACH? Est-on à l'abri des futurs blocages et plutôt un climat non apaisé dans cette coalition?
Alors, d'abord, un véritable manque de cohésion entre FCC et CACH, une absence d'une vision commune des gestions de l'État, et là, véritablement, nous aurons à voir à une coalition très difficile, sinon une impossible coalition. Je vois là que les perspectives ne sont pas bonnes. Tant il est vrai que quand vous avez affaire à des entités qui coalisent, sur le plan du discours, vous allez les sauter.
Alors,
on sent qu'au niveau du discours, c'est quand même très difficile.
Alors, nous devons conclure cette émission. Professeur Kabamba, votre dernière prise de parole. Ferdinand Kambere disait tout à l'heure qu'il fallait encore une bonne consultation au sein de la coalition pour débloquer cette situation des ordonnances. Vous pensez qu'elle va se faire comment?
On est sous la table des négociations.
Eh bien, le problème véritable pour le FCC, c'est celui de la gestion des ambitions politiques qui sont multiples en son sein. Il faut absolument que le FCC arrive à négocier avec le président de la République sur le fait, ok, vous venez de prendre deux ordonnances, mais pour les autres ordonnances, au niveau de nomination à des niveaux de mandataires publics, rien, il faudra tenir compte. Vous avez déjà fait une répartition des cartes, et donc il faudra compter avec le FCC dans l'avenir.
Merci, professeur Félicien Kabamba. En 15 secondes, Peter Kazadi, comment pensez-vous résoudre ce problème où il y a des ordonnances du président de la République qui restent non exécutées?
Je crois qu'il faut que les amis du FCC comprennent que si nous devons être dans une coalition, c'est pour travailler pour les biens du pays. Ces ordonnances devraient être exécutées dès lors qu'il y a eu collaboration entre le président de la République et le premier ministre, qui est membre du FCC.
Vous l'avez déjà dit.
Donc, on devait laisser ces ordonnances exécutées et laisser la politique gouvernementale être menée au niveau des institutions.
Merci. En 10 secondes, Ferdinand Kambere, on n'a malheureusement pas le temps. Vous avez dit que les négociations sont sur la table. Ça va se débloquer bientôt. Dans combien de temps?
Je crois que le discours de mon frère Kazadi ne vient que de lui-même et que le chef de l'État, lui, a une autre vision. Pour gérer ces pays, c'est d'abord les institutions, c'est la constitution qui doit être respectée.
Merci.
Et que, à moins qu'il m'affirme aujourd'hui qu'il n'y a plus de négociations, mais les deux familles sont sur la même table, et c'est pour définir la vision commune pour gérer la République.
Merci, Ferdinand Kambere, cette émission est terminée.
C'est pour un état de droit que
nous voulons. Merci de l'avoir écouté.